Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un texte qui nous invite à repenser radicalement notre rapport au monde, à nous-mêmes et à notre condition d'être humain plongé dans le tourbillon de la modernité. Alors, pour faire apparaître ce texte, je me suis posé une première question. Qu'est-ce qu'une vraie révolution ? Non pas celle qui fracasse les structures extérieures dans le tumulte et le bruit, mais celle qui germe silencieusement dans l'intimité de notre conscience. Cette révolution qui naît du rêve, qui se nourrit de nos aspirations les plus profondes et qui transforme notre regard sur l'existence. Le poème que nous allons découvrir aujourd'hui, et qui est un des tout derniers que j'ai écrit, fusionne ces deux dimensions en un néologisme, la rêve-olution. Il s'agit d'une révolte intérieure, d'un soulèvement de l'âme contre les chaînes invisibles qui entravent notre humanité véritable. Mon écrit va osciller entre critique acerbe de notre époque et espérance d'une renaissance collective. Ce texte va nous convier toutes et tous à un voyage au cœur de nos contradictions, de nos servitudes consenties et de nos possibilités d'émancipation. Alors je vous propose de tout de suite nous laisser porter par ces vers qui, je l'espère, vont résonner comme un appel urgent à retrouver notre dignité perdue. Je vous en donne lecture. Je ne suis plus que ce jour où nous ne serions plus asservis par le son du fouet, écho de la sueur et du sang, où nos rêves ne seraient plus stoppés sur la muraille de nos consommations, éternellement inassouvies, où nos mains ne seraient plus chargées que des stylos tirant des encres, de rouge et de noir, pour toucher au cœur de l'humanité des pauvres âmes jeunes, affaiblies par leur soif de savoir. Nos ultimes rêves s'envoleront, alors, comme des feuilles d'automne, dans ce vent d'hiver, bercés et frappés par les gouttes d'une pluie glaçante. De nos mots transformés en cristaux légers fondant sous un prochain ciel d'été. Imagine cette rêve-olution, où nous ne suivrions plus jamais la voie des ports célestes et abjects dockers, chargeant des navires de larmes, salées et exquises, au goût d'un soleil noir, enfin loin sur l'horizon de nos cœurs, disparus, de nos corps et de nos amours, communiés, encore cette fois, à perpétuité, et cracher nos désirs vils et putrides à l'esprit de ce monde qu'ils ont construit de leurs mains, rempli des tristes remords que nos sacrifices ne rachèteront jamais. Nous serions enfin libres de faire grandir nos âmes, peuple du monde, de leur nécessaire humanité qui, depuis leur apparition, ne sont qu'asservies et déshumanisées. Habillés de noir, assistant à leur propre descente dans les entrailles de la terre, aveugles, où les vers et tous les organismes des bas-fonds rongent éternellement jusqu'à l'épuisement des mots des poètes tentant, dans un assaut ultime, de colorer un monde qui ne dégoulinera que du désespoir, lumière du monde, ébloui par la funeste bouillie, mélodie de sa morne fin. Alors, ce monde, poussière au vent, retrouvera enfin toute sa beauté originelle, ultime mystère, tournant à grande vitesse dans son univers organisé, nécessairement, sans le sens stupide de cette génération, philosophe, ayant trop peur de leur propre finitude, faiblesse, crasse les marquant au fer rouge des lois d'un monde qui les déteste, rejetés rêvant et croyant à leur chance d'intégrer, purifier, une nature qui ne cherche qu'à les rejeter, dégénérer, comme un cancer se répandant sur la toile, numérisé, d'un corps affaibli par les affres des désirs et du temps, leur Dieu. Avant de vous développer un peu mieux ce texte, je vous conseille vivement de le lire par vous-même sur le site voixpoétique.com. Vous le trouverez dans la section des poésies. Puisqu'il a été écrit de manière assez particulière, vous verrez dans sa présentation, d'ailleurs, vous comprendrez rapidement ce que je veux dire. Et la plupart de mes poèmes sont faits plutôt pour une lecture à voix haute, celui-ci est plutôt à destination d'une lecture intérieure. Alors, ce poème s'ouvre sur une formule d'une grande densité. « Je ne suis plus que ce jour ». Cette réduction temporelle de l'être à un instant unique témoigne d'une urgence existentielle qui traverse l'ensemble du texte. Ici, je ne m'inscris plus dans la durée ordinaire de l'existence, mais je me condense en un moment de conscience aiguë, celui où la lucidité devient totale et où l'espérance d'une transformation radicale émerge. Cette concentration temporelle évoque la tradition mystique où le présent absolu devient le lieu de la révélation. Le jour dont il est question n'appartient pas au calendrier profane ici. Il relève du temps sacré du Kairos, plutôt que du Chronos, cet instant décisif où tout peut basculer. L'asservissement que j'évoque dès les premiers vers porte une charge historique indéniable, le fouet, la sueur, le sang. Autant de symboles qui convoquent la mémoire douloureuse de l'esclavage sous toutes ses formes. Mais mon texte ne se limite pas à une dénonciation historique, il pointe vers une servitude contemporaine plus insidieuse, car elle se pare des atours de la liberté. Nous sommes devenus les esclaves consentants d'un système qui nous enchaîne par nos propres désirs. La violence physique du fouet s'est muée en une violence symbolique tout aussi dévastatrice à mon sens. Les chaînes visibles ont cédé la place au lien invisible du besoin créé artificiellement, de la dépendance économique, de l'aliénation consumériste. La muraille des consommations éternellement inassouvie constitue une image centrale de mon poème. Elle symbolise cette barrière infranchissable que dresse notre société entre nos aspirations authentiques et leurs réalisations. Nos rêves véritables, ceux qui élèvent l'âme et nourrissent notre humanité profonde, se heurtent finalement sans cesse à cette paroi de nécessité factice. La consommation fonctionne comme un piège ontologique. Elle promet le comblement, mais génère finalement l'insatisfaction perpétuelle. Chaque désir assouvi en fait naître 10 autres, dans une fuite en avant qui épuise finalement nos ressources intérieures. Cette mécanique infernale transforme l'existence en une course folle où nous poursuivons finalement des chimères sans jamais atteindre réellement notre paix intérieure. L'image des mains chargées des stylos tirant des encres rouges et noires introduit une dimension différente. Alors bien sûr, on y entend tout de suite la révolution, encore une fois, par ses couleurs rouges et noires, mais elle suggère aussi le retour possible à une activité créatrice authentique, à un travail qui aurait du sens. Le stylo symbolise l'écriture, donc la transmission, donc la mémoire, donc la culture. Au-delà de la révolution, du rouge et du noir, les encres rouges et noires évoquent également des manuscrits anciens, les enluminures, tout ce patrimoine textuel qui a construit notre humanité. Touché au cœur de l'humanité, des jeunes âmes affaiblies par leur soif de savoir, voilà une mission profonde et éducative et spirituelle qui redonne sa noblesse à l'acte d'enseigner, d'éveiller et de transmettre. Face au règne de la marchandise, le poète oppose la puissance du verbe et de la connaissance véritable. La métaphore des rêves s'envolant comme des feuilles d'automne porte une beauté mélancolique. Elle inscrit le mouvement de libération dans le cycle naturel des saisons, suggérant que cette transformation obéit à des lois profondes, cosmiques même. Les feuilles, qui tombent en automne, ne meurent pas stérilement, elles retournent à la terre pour la nourrir. De même, nos rêves qui s'envolent ne disparaissent pas dans le néant, ils se métamorphosent. Le vent d'hiver qui les emporte possède une force purificatrice, il balaie l'ancien pour préparer le nouveau. Les gouttes de pluie glaçantes, transformant nos mots en cristaux légers, condensant l'essence de nos aspirations en forme pure et éphémère. Il y a ici une alchimie saisonnière qui culmine dans la promesse d'un prochain ciel d'été. Les cristaux fondent, libérant l'eau qui irrigue et féconde. Le cycle se boucle, montrant que la rêvolution n'est pas une rupture brutale, mais plutôt un processus naturel de maturation et de renaissance. L'été représente l'accomplissement, la plénitude retrouvée, le temps où les fruits mûrissent et où la vie explose dans toute sa générosité. Cette circularité saisonnière suggère que la transformation souhaitée s'inscrit dans l'ordre profond du monde, qu'elle n'a rien d'artificiel ni même de forcé. Et puis il y a cette injonction, imagine cette rêvolution, qui convoque directement mes lecteurs, ou mes auditeurs, là comme présentement, comme partenaires de cette vision. Le néologisme lui-même mérite qu'on s'y arrête. En fusionnant rêve et révolution, j'ai voulu indiquer que la véritable transformation doit commencer dans l'imaginaire, dans notre capacité à concevoir un monde autre. Sans cette puissance onirique, aucun changement réel n'advient. Mais inversement, le rêve doit porter une force révolutionnaire. Elle ne peut se contenter d'être une évasion consolatrice. Elle doit dynamiter nos certitudes, ébranler nos habitudes mentales, ouvrir des possibles jusque-là qui nous paraissaient impensables. Les ports célestes et abjects forment un oxymore que j'ai trouvé saisissant. Ces lieux de transit et de commerce incarnent l'ambivalence de notre condition. Célestes, car ils ouvrent sur l'horizon, sur l'ailleurs, sur la promesse du voyage. Abjects, car ils sont aussi des espaces de trafic, d'exploitation, de marchandisation des existences. Les dockers, chargeant des navires de larmes, tirent une allégorie puissante, sur notre condition contemporaine. Nous sommes devenus les manutentionnaires de nos propres souffrances, les organisateurs méticuleux de notre malheur collectif. Ces larmes salées et exquises portent le goût paradoxal d'une douleur à laquelle nous nous sommes presque habitués, trouvant une étrange saveur à ce qui nous détruit. Et puis, j'ai pensé aussi également à ces dockers qui, dans l'histoire, là très récemment, dans ce conflit israélo-palestinien, eh bien ces dockers qui ont refusé de charger des munitions qui étaient envoyées à destination d'Israël pour éliminer justement les Palestiniens. Le soleil noir constitue une image récurrente dans la poésie mystique et alchimique. Il désigne un état de nuit obscur où toute lumière semble éteinte, où le désespoir atteint son point culminant. Chez Nerval, le soleil noir symbolise la mélancolie absolue. Dans le texte qui nous occupe, ce soleil noir doit disparaître de l'horizon de nos cœurs. Son éloignement marque la fin d'un règne, celui de la tristesse ontologique qui pèse sur notre époque. De nos corps et de nos amours communiés à perpétuité, il y a ici une formulation qui évoque la dimension charnelle et affective de la révolution intérieure. Il ne s'agit pas d'une transformation purement intellectuelle, mais d'une réunification de toutes les dimensions de notre être. Cracher nos désirs vils et putrides représente un geste d'une violence cathartique. Le verbe « cracher » exprime le dégoût, le rejet viscéral. Nos désirs ont été corrompus, pervertis par le système qui les a façonnés. Ils ne nous appartiennent plus vraiment. Ils ont été manufacturés par les stratégies marketing, les injonctions sociales, les mécanismes de distinction et de compétition. Ces désirs ne nous élèvent pas. Ils nous avilissent. Ils sont putrides car ils pourrissent notre âme de l'intérieur, la gangrénant par leur toxicité. Les rejeter violemment devient un acte de salubrité spirituelle, une nécessité vitale pour retrouver notre authenticité. L'esprit de ce monde, qu'ils ont construit de leurs mains, désigne clairement les architectes du système actuel. Ici, je ne nomme pas explicitement les responsables, laissant le soin à chacun d'identifier, selon sa compréhension, les forces qui ont édifié cette civilisation insatisfaisante. Cette construction porte en elle-même sa malédiction. Elle est remplie de tristes remords que nos sacrifices ne rachèteront jamais. C'est une formulation terrible qui souligne l'impossibilité d'expier les erreurs collectives qui s'accumulent, et s'accumulent, et s'accumulent. Nous sacrifions quotidiennement sur l'autel de la productivité, de la croissance, du progrès matériel, mais ces sacrifices restent stériles. Ils n'apportent aucune rédemption, aucun salut et aucune paix. La liberté, enfin conquise, permettrait de faire grandir nos âmes. Cette croissance spirituelle apparaît comme le véritable horizon d'humanité. Peuple du monde, l'appellation abolit les frontières et les divisions artificielles pour nous rappeler notre appartenance commune à l'espèce humaine. Depuis leur apparition, nos âmes sont asservies et déshumanisées, habillées de noir. Le noir évoque le deuil, bien sûr, mais aussi l'uniformité, la standardisation, la perte d'identité singulière. Nous portons tous le même costume sombre de la conformité sociale, renonçant à nos couleurs propres, à notre originalité essentielle. La descente dans les entrailles de la terre dessine une plongée infernale. Nous assistons aveugles à notre propre déchéance, spectateurs impuissants ou complices d'un mouvement qui nous entraîne vers le bas. Les vers et les organismes des bas-fonds, qui rongent éternellement, composent une vision apocalyptique qui est, je trouve, presque dantesque. Cette putréfaction continue symbolise la décomposition de nos valeurs, l'effritement de notre civilisation. Face à ce processus destructeur, l'ensemble des poètes lance un assaut ultime, tentant désespérément de colorer un monde qui ne dégouline que du désespoir. J'ai trouvé bouleversante cette métaphore du coloriage. Elle suggère que la poésie, l'art, la beauté constituent les derniers remparts contre la grisaille nihiliste. Les poètes essaient de ranimer les teintes vives de l'existence, d'injecter du sens et de la lumière dans l'opacité ambiante. Mais le combat semble perdu d'avance. Le monde continue à dégouliner de désespoir, cette substance visqueuse et nauséabonde qui envahit tout. Lumière du monde, l'expression habituellement réservé au Christ, dans la tradition chrétienne, s'applique ironiquement au désespoir lui-même, devenu la seule clarté que nous percevons encore. Ébloui par la funeste bouillie, mélodie de sa morne fin, ces vers condensent ici une critique féroce de notre rapport à la consommation. La bouillie représente cette masse informe et indifférenciée de produits, d'images, de stimulations qui nous sont déversées quotidiennement. Funeste car mortifère, elle nous tue à petit feu. Pourtant, nous en sommes éblouis, fascinés, hypnotisés. Elle chante la mélodie de notre morne faim. Cette appétence jamais rassasiée, cette boulimie existentielle qui nous caractérise. Notre faim est morne car elle a perdu toute joie véritable. Elle est devenue mécanique, compulsive et triste. Le triste monde, réduit à la poussière au vent, marque un tournant dans mon poème. Après avoir déployé le constat implacable de notre condition, le texte s'ouvre à l'espérance. Si ce monde peut être dispersé comme poussière, alors il n'est pas éternel, il peut être balayé. La fragilité révélée devient paradoxalement porteuse d'espoir. Le monde retrouvera sa beauté originelle, qualifiée d'ultime mystère. L'adjectif « originel » évoque un état premier, une pureté des commencements, un temps mythique où l'harmonie régnait. Le mystère demeure entier car cette beauté ne se laisse pas saisir conceptuellement, elle relève de l'ineffable. Le monde tourne à grande vitesse dans son univers organisé. Il y a ici une image cosmique qui rappelle notre inscription dans un ordre qui nous dépasse infiniment. L'univers possède sa logique propre, sa nécessité interne. Notre agitation humaine, nos constructions fragiles, ne pèsent guère face à cette mécanique céleste. Sans le sens stupide de cette génération, voilà une critique que j'ai voulu frontale de notre époque. Le sens que nous avons donné à notre existence collective est qualifié de stupide, c'est-à-dire d'aveugle, d'insensé, de dépourvu de sagesse véritable. Les philosophes contemporains sont directement interpellés, accusés d'avoir trop peur de leur propre finitude. Cette peur de la mort constitue, selon mon poème, la faiblesse crasse de notre temps. Nous avons perdu la capacité d'affronter sereinement notre mortalité, de l'intégrer comme dimension constitutive de notre humanité. Cette crainte nous marque au fer rouge des lois d'un monde qui nous déteste, pour ce que l'on est là, présentement, dans ce qui est décrit. Formulation terrible qui suggère que les structures sociales contemporaines sont fondamentalement hostile à l'épanouissement humain. Nous sommes rejetés, stigmatisés, marqués comme du bétail par un système qui ne nous veut aucun bien. Pourtant, nous continuons à rêver et à croire à notre chance d'être purifiés et intégrés. Cette illusion d'intégration possible trahit notre aliénation profonde. Nous espérons être acceptés par une nature qui ne cherche qu'à nous rejeter. Le terme « dégénéré » sonne durement. Vous me l'accorderez. Il indique que nous avons perdu notre dignité d'être naturel, que nous sommes devenus des excroissances monstrueuses. La comparaison avec le cancer qui se répand sur la toile numérisée frappe par sa justesse. Nous proliférons, effectivement, comme des cellules malignes, envahissant tous les espaces, les dégradant, les détruisant. Notre présence est devenue pathologique pour la planète elle-même. Le corps, affaibli par les affres des désirs et du temps, renvoie à notre condition mortelle exacerbée par nos passions destructrices. Nous ne mourrons pas seulement du passage du temps, nous nous épuisons par la poursuite effrénée de notre satisfaction éphémère. Le temps est qualifié de notre Dieu. C'est une formulation sacrilège qui indique l'idolâtrie contemporaine. Nous adorons le temps, nous le sacralisons, nous lui sacrifions tout. La vitesse, l'immédiateté, l'urgence sont devenues nos valeurs cardinales, remplaçant les anciennes divinités transcendantes. Cette analyse impitoyable de notre condition, pourtant, ne verse jamais dans un nihilisme pur. Elle porte en creux l'espérance d'un dépassement possible. La révolution dont je parle n'est pas un programme politique précis, c'est un appel à la métamorphose intérieure. Elle suppose une prise de conscience radicale de nos chaînes, un refus viscéral de continuer à vivre dans la servitude consentie. Elle exige aussi le courage d'imaginer autrement, de rêver un monde qui n'obéirait plus aux lois mortifères du système actuel. Cette imagination créatrice constitue le premier acte révolutionnaire véritable. Dans la perspective humaniste qui sous-tend ce texte, l'être humain n'est jamais réductible aux déterminations sociales qui pèsent sur lui. Il garde toujours une marge de liberté, un espace irréductible où peut germer la révolte. Cette liberté intérieure représente le trésor à préserver absolument. Tant qu'elle existe, tant que la conscience demeure éveillée, l'espoir subsiste. Le poème fonctionne comme un réveil brutal, une sonnerie d'alarme qui vient troubler notre sommeil dogmatique. Il nous secoue, il nous interpelle, il nous somme de sortir de notre torpeur. Il y a une dimension ésotérique également dans ce texte qui affleure dans plusieurs images. Le soleil noir, les cristaux, la transmutation des éléments à travers les saisons, autant de motifs qui évoquent bien sûr la tradition alchimique qui m'est si familière et vous le savez maintenant. L'alchimie spirituelle consiste à transformer le plomb de notre condition actuelle en or de l'être accompli. Elle suppose une mort symbolique suivie d'une renaissance, la révolution, dont parle mon poème, emprunte cette structure initiatique. Il fait mourir à l'ancien monde pour renaître dans le nouveau. Cette mort n'est pas physique, bien sûr, mais elle est psychique. Elle concerne nos attachements, nos certitudes, nos habitudes. La voie mystique orientale et occidentale enseigne depuis des millénaires que la libération véritable passe par le détachement. Non par un renoncement triste et mortifère, mais un détachement joyeux qui nous allège, nous libère du poids des désirs compulsifs. Le bouddhisme identifie la soif, le tana, comme la source de toute souffrance. Nous souffrons parce que nous cramponnons à ce qui est impermanent, parce que nous voulons retenir ce qui s'écoule nécessairement. Accepter le flux, embrasser le changement, lâcher prise, tels sont les enseignements immémoriaux que mon poème réactualise dans un langage finalement contemporain. La contemplation du monde dans sa beauté originelle demande un regard purifié. Nous ne voyons plus le réel tel qu'il est, nous le percevons à travers le filtre déformant de nos projections mentales, de nos peurs, de nos désirs. Retrouver l'innocence du regard, la fraîcheur de la perception première, voilà une tâche spirituelle majeure. Les traditions contemplatives, qu'elles soient chrétiennes, bouddhistes ou soufis, s'accordent sur cette nécessité de nettoyer les portes de la perception. Mon poème nous rappelle justement cette urgence. Tant que notre vision restera obscurcie, nous ne pourrons accéder à la beauté ultime qui habite le monde. La critique de notre génération de philosophes qui ont peur de la finitude interroge notre rapport contemporain à la mort. Les sagesses anciennes enseignaient l'art de mourir, la préparation sereine au grand passage. Nos ancêtres savaient danser avec la mort, lui faire une place dans l'existence sans pour autant sombrer dans le morbide. Eh bien, nous avons perdu cette sagesse. La mort est devenue l'impensable, l'obscène, l'absolu qu'il faut dissimuler, éloigner, médicaliser. Et cette fuite en avant, eh bien, nous prive d'une dimension essentielle de notre humanité. qui n'apprend pas à mourir n'apprend pas vraiment à vivre. Sur le plan pratique, eh bien, comment méditer ce poème ? Comment le laisser œuvrer en nous ? La première approche consiste à l'écouter ou le lire plusieurs fois, sans chercher immédiatement à comprendre intellectuellement. Je vous invite à laisser résonner les images, les rythmes, les sonorités. Certains vers vont peut-être vous toucher plus particulièrement, éveiller quelque chose en vous. Je vous propose d'accueillir ces vibrations sans les analyser. Et puis, dans un deuxième temps, on pourra s'arrêter sur les images qui nous ont saisies. Que m'évoque cette muraille des consommations ? En quoi est-ce que je me sens concerné par ces dockers chargeant des navires de larmes ? Quelle est ma propre expérience de l'asservissement moderne ? La contemplation poétique n'est pas une démarche purement intellectuelle. Elle engage tout notre être, corps, cœur et esprit. On peut même envisager des pratiques incarné autour du texte. Par exemple, lors d'une promenade en forêt, ce que je fais régulièrement, eh bien, je vous invite à observer réellement les feuilles d'automne, nous sommes dans la bonne saison, qui s'envolent. Laissez leur danse vous enseigner quelque chose sur l'impermanence et la métamorphose. Ou bien, si vous n'êtes pas comme moi en montagne et entouré de forêts, eh bien, face à la mer, méditez sur ces ports célestes et abjects. Sentez en vous-même cette ambivalence entre l'appel du large et l'enfermement dans nos habitudes. Mon poème nous invite aussi à un examen de conscience radical. Quels sont les désirs vils et putrides que je nourris malgré moi ? Dans quelle mesure suis-je complice du système que je critique ? Comment puis-je concrètement, dans mon existence quotidienne, amorcer cette révolution intérieure ? Ces questions ne visent pas à nous culpabiliser, mais plutôt à vous responsabiliser. Elles tentent de vous rappeler que la transformation du monde commence par notre propre métamorphose. On ne peut pas prétendre vouloir changer la société tout en restant inchangé soi-même. La dimension collective de ce poème mérite d'être soulignée. Il y a le pronom « nous » qui traverse tout le texte, indiquant qu'il s'agit d'une condition partagée et d'une libération commune. La révolution n'est pas une affaire individuelle. Elle concerne le peuple du monde dans son ensemble. Cette perspective fraternelle et universaliste ouvre une voie politique au sens noble du terme. Nous sommes tous embarqués sur le même navire, confrontés aux mêmes défis existentiels. Notre salut, s'il advient, eh bien, il sera collectif ou il ne sera pas. Personne ne peut se sauver seul en abandonnant les autres à leur sort. Visualisez vraiment le fait que, malgré nos traditions et toutes nos différences, qui sont finalement nos richesses de l'humanité, eh bien, nous vivons tous sur une même boule, enfermés dans une sphère qui nous sépare de l'espace et du cosmos. Après avoir eu cette vision, ce sens, eh bien vous comprendrez que les quelques kilomètres qui nous séparent sont finalement bien ridicules. Cette solidarité humaine, elle est fondamentale. Elle nous relie par les frontières, par les cultures, par les époques. Les générations passées ont connu leur propre forme d'asservissement. Les générations futures connaîtront les leurs. Et nous sommes les maillons d'une chaîne qui nous précède et nous survit finalement. Notre responsabilité consiste à transmettre non pas nos névroses et nos peurs, mais nos rêves les plus beaux, nos aspirations les plus hautes. Faire grandir nos âmes pour léguer un héritage spirituel digne à ceux qui viendront après nous. Tel peut être le sens ultime de cette rêvolution. Interrompre la transmission du malheur collectif pour initier celle de la sagesse. Enfin, s'il vous plaît. Voilà donc un poème qui nous secoue dans nos certitudes, qui ose nommer notre malaise contemporain, sans concession, mais sans désespérer non plus de notre capacité à nous transformer. La rêvolution dont il trace l'esquisse n'appartient ni au passé, ni au futur lointain. Elle peut commencer maintenant, en nous, par ce simple déclic de la conscience qui refuse soudain ce qu'elle acceptait hier encore. Chaque lecteur, chaque auditeur, devient ainsi le possible acteur d'une métamorphose qui le dépasse tout en commençant par lui-même. Nous pouvons choisir dès aujourd'hui de ne plus être dockers chargeant des navires de larmes, de ne plus construire les prisons qui nous enferment. Nous pouvons reprendre en main nos stylos pour écrire une histoire différente, colorier un monde épuisé de gris. Cette liberté reste intacte, quelles que soient les contraintes extérieures. Elle habite l'espace inviolable de notre conscience éveillée. Puisse ce texte contribuer à maintenir vivante cette flamme fragile mais inextinguible de notre humanité véritable, cette part en nous qui ne cessera jamais de rêver à un monde meilleur et de travailler patiemment à son avènement. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.